Buonasera a tutti. Gli anni precedenti vi ho parlato di due collezionisti italiani molto importanti, Gian Pietro Campanà e Scipione Borghese, e di due pittori celebri, Paolo Cagliari, detto il Veronese, e Artemisia Gentileschi. Questa sera andiamo a parlare un poco di architettura con la Basilica San Marco di Venezia. E come certe persone non parlano italiano in questa sala, ho deciso di tradurre la mia conferenza interamente in francese. Un grosso lavoro. Bon, comme d'habitude, je tiens à remercier Claude Viviani qui s'est chargé de la mise en forme des documents que j'ai sélectionné. Vous verrez aussi quelques-unes de ces photos quand nous parlerons du campanile et de la loggetta. Je suis heureux que Marie-Hélène ait fait l'effort d'être présente parmi nous ce soir. Il y a 15 jours, dans une belle conférence, elle nous a fait découvrir les Carpaccio de la Scuola San Giorgio d'Église Schiavoni. Et bien ce soir, nous resterons à Venise. Une remarque avant de commencer, je n'ai jamais compris pourquoi les Français s'obstinaient à parler de la basilique Saint-Marc. Il s'agit de San Marco et de l'évangéliste Saint Marc. Mon oncle paternel par alliance s'appelait Marc. Il n'aurait certainement pas apprécié que je l'appelle Tonton Marc. En conséquence, ce soir, je vais vous parler de la basilique Saint Marc. Venise est progressivement dégagée de la domination byzantine. Elle est passée du statut de région byzantine gouvernée par un dux militaire dépendant de l'Empire d'Orient à celui d'État autonome. La fonction de chef de la province de Vénétie byzantine, ou dux, fut transformée en celle de chef local d'une république autonome vénitienne, ultérieurement appelée doge. Entre 700 et 840, Venise parvint à s'affranchir complètement de Byzance. Grâce au jeu politique, la ville devint une véritable puissance renforcée par sa position géographique et par l'appui de son nouveau protecteur italien Saint-Marc, après le grec Théodore, premier protecteur byzantin de la ville. Or, c'est le détail d'un tableau de Caspar van Vittel du 18e que vous avez sous les yeux, qui vous montre l'entrée de la Piazzetta avec les deux protecteurs de la ville au sommet des deux colonnes. Hein. Ici, c'est Théodore, et là-haut, le lion de Marc. Et voici la vue actuelle, avec le même angle de vue, pratiquement. En 826, la ville de Venise, qui a alors comme patron Saint-Théodore Tiron, se cherche un nouveau puissant protecteur céleste, pouvant rivaliser avec Rome et son saint patron, l'apôtre Pierre. Alors, avec une petite recherche, j'ai trouvé 33 Saint-Théodore catholiques, plus quelques Théodore orthodoxes. Mais le nôtre s'appelle Saint-Théodore Tiron. Il est représenté ici en train de foudroyer le démon, sous la forme d'un crocodile. En tout cas, on a l'impression qu'il s'agit vraiment d'un crocodile. Et par ailleurs, le lion qui symbolise la ville de Venise, le lion de Saint-Marc. Quand Marc revint à Alexandrie en 61, la petite communauté qu'il avait laissée s'était développée en une importante église. Ce succès lui attira beaucoup d'ennuis avec l'administration romaine d'Alexandrie, et en 68, les païens l'arrachent à l'autel où il célèbre la messe et le traînent dans les rues, la corde au cou. Il meurt avant la lapidation. Giustiniano Participazio, 11e doge de Venise, ordonne qu'une petite flotte parte pour aller voler les reliques de Saint-Marc dans la petite chapelle de Boucol, ou Bucculi en italien, semble-t-il, petit port proche d'Alexandrie, où elle se trouve depuis sa mort. Depuis que les Fatimides ont conquis l'Égypte, l'empereur byzantin a interdit tout rapport commercial avec le monde musulman. Alors, on raconte que la présence des Vénitiens à Alexandrie est involontaire, que c'est le vent qui a poussé les bateaux vers ce mouillage, et donc que c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée. Les deux marchands vénitiens, Buono Tribuno di Malamocco et Rustico da Torcello, profitent de l'halte forcée à Alexandrie pour aller vénérer les reliques de Saint-Marc qui fut martyrisé dans cette ville. Les deux marchands, l'un s'appelle théoriquement Buono et l'autre Rustico. Mais Buono est souvent nommé sur les mosaïques sous le nom de sa fonction, Tribuno ou Tribunus. Alors on verra les deux noms, Tribuno Tribunus et Rustico Rusticus. Hein, voilà, pour simplifier un peu les choses. Ce Buono était tribuno di Malamocco. Un tribun, c'est un administrateur. Donc, il était tribun de Malamocco, mais c'est le nom qui a été retenu, ce nom de tribunus, sur les mosaïques. Donc, ils renouvellent leurs pieuses visites à plusieurs reprises aux reliques de Saint-Marc. Deux moines grecs orthodoxes, Thorasius et Théodorus, étaient les gardiens de la relique. Les marchands vénitiens ont découvert que le calife d'Alexandrie faisait des projets pour détruire les reliques et que l'église des moines risquait d'être transformée en mosquée. Ils ont alors persuadé les moines de leur permettre d'emporter le corps du saint menacé de profanation. Ainsi, les reliques seront plus sûrement conservées à Venise. Les moines et les marchands échangent le corps de Marc avec celui de Saint-Claude. Tribunus et Rusticus cachent les reliques dans un panier au milieu de couches de feuilles de choux et de viande de porc. Ils montrent le contenu du panier aux autorités portuaires musulmanes qui refusent de toucher cette viande impure. Alors sur cette mosaïque, on voit le lieu qui est précisé symboliquement par cette tour, Alexandria. Et les deux moines orthodoxes, ici Théodorus et Thorasius, qui aident les deux marchands Tribunus et Rusticus à déplacer, à prendre le corps de Saint-Marc et à le fourrer dans un panier en mettant quelques morceaux de viande de porc et de feuilles de choux par-dessus. Et ils partent avec le panier comme ça sur l'épaule. On a un peu de mal à voir comment il a pu rentrer dans le panier, mais... Voilà. Vous voyez, les noms sont raccourcis, tribune et puis rustique, c'est donc tribunus et rusticus. Ainsi emballée, la dépouille du saint entreprit son voyage triomphal vers Venise. Une légende appropriée fut aussitôt mise sur pied. Le saint avait jadis fait naufrage sur une île de la lagune, où un ange lui était apparu, l'accueillant avec ses paroles « Pax tibi marce evangelista meus »« Paix à toi, Marc, mon évangéliste ». Devise que l'on retrouve partout dans Venise, associée au lion. Alors on voit ici les deux marchands en train de charger le ballot contenant la dépouille de Saint-Marc dans le bateau afin de repartir vers Venise. Et ici, il y a un mot, « Kanzir, Kanzir ». Il crie « Kanzir, Kanzir ». Et ce mot, c'est un mot d'origine arabe qui signifie « chair de cochon ». Donc, même pendant le transbordement, pour éviter que les douaniers du port d'Alexandrie s'intéressent à ce qu'il y a dedans, ils crient « cochon, chair de cochon, chair de cochon », comme ça ils sont tranquilles pour partir avec le paquet. Cet événement est également relaté sur les grandes mosaïques de la façade de Saint-Marc. Alors ici, c'est le premier portail à droite de la façade de Saint-Marc, où on voit encore une fois le panier, les douaniers musulmans qui se détournent avec horreur du contenu, et deux marchands vénitiens, Tribunus et Rusticus, qui sont en train de leur dire « Voyez, on n'a rien à cacher, c'est du porc. » Et ça, c'est le quatrième portail, en partant de la droite, un grand portail de la façade de Saint-Marc, où, qui décrit le corps de Saint-Marc vénéré par les magistrats vénitiens à Venise. Le vol de ces reliques par les Vénitiens empoisonna durant des siècles les relations entre l'Église latine et l'Église copte orthodoxe. Alors vous reconnaissez le lion de Saint-Marc peint par Carpaccio. Pourquoi avoir choisi Saint-Marc ? Saint-Marc fut le disciple de Saint-Pierre et l'auteur d'un évangile. La tradition veut que Saint-Marc ait été sacré par Saint-Pierre, évêque d'Aquilée, puis d'Alexandrie d'Égypte, lieu où il fut tué et enterré. L'histoire du transfert de son corps à Venise, qu'on appelle la translatio, a été racontée dans des textes littéraires ainsi que par les mosaïques de la basilique que l'on vient de voir et les émaux carrés de la Pala d'Oro, que l'on verra plus tard. Les saints patrons jouent toujours un rôle fondamental. Par l'intercession des saints auprès de Dieu, la population se fortifie contre tous les maux. Saint Marc protège les Vénitiens et donc aussi leur état. Il y a 12 apôtres, mais seulement 4 évangélistes. Se trouver en possession de la totalité d'un corps réunissant les deux qualités, apôtre et évangéliste, est chose exceptionnelle et un fait d'une grande portée sur le plan international. Venise revendique aussi le patronage de Marie. Venise compte donc 3 saints protecteurs, Théodore, Marc et Marie. À titre d'exemple, Naples compte 54 saints patrons, moins prestigieux évidemment. Cela permet aussi à la ville d'utiliser un symbole fort, le lion. Pourquoi le lion est-il l'attribut iconographique traditionnel de Marc ? Cela fait référence à deux textes, la vision d'Ézéchiel, qui est un prophète de l'Ancien Testament, et la vision de Jean l'Évangéliste relatée dans le livre de l'Apocalypse. Ces visions renvoient par analogie aux quatre évangélistes évoqués par quatre symboles qu'on appelle le tétramorphe. Plus tard, les pères de l'Église en ont fait l'emblème des quatre évangélistes, le taureau pour Luc, l'homme ou l'ange pour Matthieu, l'aigle pour Jean et le lion pour Marc. Le lion symbolisant saint Marc est généralement ailé et parfois surmonté d'une auréole. Les ailes symbolisent l'élévation spirituelle et l'auréole symbolise la sainteté. Il est souvent accompagné d'un livre ou d'une épée placée entre ses pattes avant, l'épée signifiant un état de guerre et le livre un état de paix. En tant que demeure définitive du corps de l'auteur du deuxième évangile, la ville acquiert un grand prestige et affirme sa suprématie et son autonomie. Il s'agissait d'une exaltation du pouvoir économique, politique et militaire du duché de Venise, pouvoir admis par l'Empire byzantin qui reconnaissait alors au doge des titres et une dignité élevée qu'il assimilait sur le plan juridique aux membres de la famille impériale byzantine. Donc, en 828, le doge Giustiniano Parsipazio est en possession des saintes reliques de Marc. Sentant sa fin proche, il nomme son frère Giovanni Parsipazio co-dux pour pouvoir lui transmettre la charte. Par disposition testamentaire, Giustiniano ordonne la construction de la première église destinée à recevoir les reliques de saint Marc. Il meurt peu après, en 829. L'édifice ecclésiastique souhaité par le doge Giustiniano est bâti par son frère Giovanni entre 829 et 832 sur l'emplacement de la chapelle privée du palais des doges. La structure de l'église du Haut Moyen-Âge est mal connue, probablement en croix grecque, des éléments partiels sont conservés dans la crypte. Ce brûle-parfum que vous avez sous les yeux, qui appartient au trésor de la basilique, donne peut-être une idée de la première église. En 976, un incendie volontaire destiné à se débarrasser du doge Pietro IV Candiano va détruire cette première église. Nous avons fait quelquefois allusion à la corruption des papes et des prélats des temps anciens, mais il semble bien que certains doges ne valaient pas mieux. Quelques mots à propos de Pietro IV. Son père, le doge Pietro III, l'avait fait élire co-régent, dans l'intention que son fils lui succède, et avec l'espoir que le titre devienne héréditaire. C'est toujours le même problème. L'ambition personnelle de Pietro IV le conduisit à s'opposer à une grande partie des Vénitiens, au point que le doge, son père, réussit à le sauver d'une mort certaine en l'exilant en Italie. Là, il obtient le soutien du roi d'Italie Béranger II pour attaquer Venise. À la tête de quelques partisans, il destitue son père et se nomme doge. Parmi ses premiers actes, il fait aveugler et expulser l'évêque de Castello. Maria Giovanna, il la répudie, l'obligeant à se faire nonne. Et en 966, il peut ainsi épouser la Lombarde Valdrada, qui est parente de l'empereur d'Occident Othon Ier et du roi d'Italie. En 973, Othon Ier, protecteur de Pietro IV, meurt. Le nouvel empereur, Othon II, doit s'opposer à une révolte en Allemagne. Il n'a plus le temps de s'occuper de Pietro IV. Et les Vénitiens en profitent pour déposer le doge le 12 août 976. Mais Pietro IV s'étant enfermé dans le palais ducal, ses opposants, dirigés par Pietro Orseolo, futur doge, mettent le feu au palais pour le forcer à fuir. C'est alors que l'incendie se répand à l'église de Saint-Marc. Cette première église fut donc détruite par l'incendie, en même temps que le palais des doges, l'église Saint-Théodore et 200 maisons alentour. Le doge fut tué et son corps jeté dans l'abattoir. Je ne sais pas où est l'abattoir. La même année, le nouveau doge Pietro Orseolo Ier, l'auteur du coup d'État, fait restaurer la chapelle ducale en ayant recours à une magnificence inusitée, une décoration byzantinisante. Des modifications importantes furent apportées à l'occasion de cette reconstruction. L'église est consacrée en 978. Cette deuxième église est donc la reconstruction améliorée de la première. La troisième église voit le jour une centaine d'années plus tard. On a émis de nombreuses hypothèses sur l'aspect qu'elle pouvait avoir avant la quatrième croisade de 1204 qui sera l'occasion de très nombreuses transformations. Donc en 1063, le doge Domenico Contarini, 30e doge, décide de reconstruire la basilique en englobant l'église Saint-Théodore et en faisant de l'ancienne chapelle Saint-Marc la crypte de la nouvelle église. Ce projet a nécessité la venue d'architectes de tout premier plan de la capitale impériale d'Orient, Constantinople. Le modèle le plus cité pour cette nouvelle basilique est celui de l'église des saints apôtres de Constantinople ou Apostoléon. Édifiée sous le règne de Justinien, cette église de plan cruciforme, reconstruite de 536 était revêtue intérieurement de plaques de marbre et était surmontée d'une grande coupole principale. Elle a été détruite par les Turcs vers 1462, après la prise de Constantinople. Vous avez sous les yeux un plan de cette église qui a été détruite. L'Apostoléon devint nécropole impériale et les sépultures de la plupart des empereurs y ont pris place. Il y avait 36 sarcophages en porphyre rouge, parmi lesquels celui de Constantin. Dans le monde antique, le porphyre rouge, qui rappelait la pourpre, couleur impériale, était réservée aux dieux, à l'empereur et à sa famille. Je vous signale au passage que le tombeau de Napoléon Ier aux Invalides n'est pas en porphyre. Il est constitué de blocs de quartzite rouge. La nouvelle chapelle apostolique de l'évangéliste Marc suivra elle aussi un plan en croix grecque. À la croisée des bras et au-dessus de chacun d'eux s'élèveront 5 coupoles. Cette aquarelle montre la façade principale telle qu'elle se présentait avant les travaux de restauration. Il s'agit d'une reconstitution hypothétique du revêtement de briques primitifs vers 1094. Donc, après plusieurs interruptions des travaux, l'église est consacrée en 1094. C'était une façade entièrement de briques, avec une base de pierre, un peu quelquefois. Lors de la reconstruction de la basilique commencée en 1063, les reliques sont perdues. Tout le monde avait oublié le lieu où les reliques avaient été cachées. Mais selon la tradition, elles sont miraculeusement redécouvertes le 25 juin 1094. Après 3 jours de jeûne, l'un des piliers du bras droit du transept s'effrite et révèle la présence d'un bras du saint lui-même qui indique la présence des reliques. Les reliques sont alors placées dans un sarcophage dans la crypte de la nouvelle basilique, puis sous le maître-autel au XXe siècle, où il est depuis. On voit ici le dux, donc le doge, c'est le nom de l'époque, hein, et la colonne qui s'effrite avec sans doute la main qui apparaît dans la destruction de cette colonne. Vous voyez comment la basilique est symbolisée par ces 5 dômes qui surmontent l'ensemble de la composition. C'est le même événement raconté sur un tableau de Paolo Veneziano de 1345, où là on voit la tête de Saint-Marc qui apparaît brutalement dans la colonne qui est ouverte avec le doge et toute l'assemblée autour. Et voici donc la situation actuelle avec le sarcophage de Saint-Marc qui se trouve sous le maître-autel. Au dos du retable, il y a la Palladoro. Hein, voilà. En 1177, le doge Sebastiano Ziani a grandi et acheva le narthex ouest. Donc au début, il y avait ce plan en croix grecque et c'est orienté vers l'ouest. Hein. Donc ici, c'est l'ouest. Et donc c'est du côté ouest que ce doge a fait construire ce narthex. Parfois on utilise le terme de vestibule, mais enfin voilà, c'est un terme technique qui convient, avec une décoration de mosaïque que l'on va voir. Au-dessus, il y a évidemment la galerie où se trouvent les chevaux. La façade actuelle fut donc superposée à la façade primitive remontant au XIe siècle. C'est au XIIIe siècle que la basilique fut ornée de marbre et de colonnes provenant essentiellement du pillage de Byzance en 1204 et complétée dans la première moitié du XVe siècle par des pinacles gothiques. La plupart des mosaïques surmontant les portails de la façade datent du XVIIe. Il y a aussi le portail central date du XIXe, on en reparlera. À l'exception du portail le plus à gauche, celui de Saint Alipio, qui date du XIIIe. Saint Alipio était un stylite du VIe siècle. Un stylite, ce sont ces religieux qui méditaient au sommet d'une colonne et qui mangeaient et buvaient peu. Cette magnifique mosaïque illustre l'arrivée du corps de Saint Marc et son inhumation dans la basilique. la basilique figurant sur la mosaïque n'est pas celle contemporaine de l'événement, je vous rappelle que l'événement date du 9e siècle, mais celle du 13e siècle. Cette mosaïque est la seule de la façade à appartenir à la décoration d'origine. Elle date de 1260-1270. Elle nous permet de connaître l'aspect de la basilique avant ses transformations ultérieures, notamment sans les ajouts gothiques et avec ses coupoles d'origine qui étaient plus basses. On y voit aussi les quatre chevaux antiques provenant du pillage de 1204. Ils sont là. Au XIIIe siècle, Venise apparaît comme une autre Byzance. Les navires rentrent au port chargés de pierres et autres matériaux, des colonnes, des chapiteaux, des ensembles entiers en marbre qui ont été démontés de bâtiments en déshérence à Constantinople. Les façades en briques sont recouvertes de nouveaux éléments de marbre. Ce tableau de Gentile Bellini est intitulé « Procession de la vraie croix sur la Piazza San Marco ». Il date de 1496. La procession de Gentile donna une idée assez précise de ce qu'était la place Saint-Marc à la fin du XVe siècle. On y voit en fond la basilique Saint-Marc, beaucoup plus colorée que la façade actuelle, et les dômes alors de couleur verte. En sortant du palais, la procession tournait autour de la place pour entrer dans la basilique après des haltes établies d'avance. Au XVIe siècle, Jacopo Sansovino est le grand artisan du chantier de Saint-Marc. Il imagine le cerclage des coupoles, un système de contreforts destiné à contenir les poussées des dômes surélevés et recouverts de plomb. Il réalise les statues des évangélistes, la cuve baptismale dans le baptistère. Il construit la librairie et la loggetta du campanile de Saint-Marc, dont il réalise les bronzes et la Vierge en terre cuite. Les reliefs aussi en bronze pour la porte de la sacristie, etc. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on exécute de nouvelles mosaïques pour remplacer les plus dégradées. En 1807, Napoléon dissocie l'église Saint-Marc du palais des Doges. L'église Saint-Marc n'est plus la chapelle du Doge, mais la nouvelle cathédrale de Venise. Cette photo aérienne vous permet de vous rappeler la disposition des différents bâtiments et d'évoquer la proposition d'un historien d'art qui considère que la place Saint-Marc est la nef à ciel ouvert d'une cathédrale, la façade de la basilique en étant l'iconostase. Voilà, c'est une proposition intéressante qu'il fait. Saint-Marc est une église à coupole qui suit le modèle des édifices byzantins. Elle forme un plan en croix grecque de 76 mètres de long sur 62 de large à peu près. La coupole centrale couvre la croisée des quatre bras. Chacun des bras est surmonté de sa propre coupole. Nous avons dit qu'il fallait y voir l'influence de l'église des saints apôtres de Constantinople. Saint-Marc ne s'inspire donc en aucun cas des constructions italiennes contemporaines. Les ajouts du XIIIe siècle sont restés conformes à cet esprit des modèles de l'art byzantin, tandis que le XIVe siècle voit l'introduction délibérée du style gothique, dans les pinacles en particulier. La façade est rythmée par cinq grandes arcades en plein cintre qui ouvrent sur le narthex et qui sont décorées de riches mosaïques. Je parle de la partie basse, hein. Voilà, cinq grandes arcades avec une grande arcade centrale. Au-dessus de la galerie qui surmonte le narthex s'élèvent cinq autres arcades, dont quatre sont décorées de mosaïques. Elles sont soutenues également par des colonnes et ornées de sculptures. Entre ces arcades s'élèvent des flèches avec les statues des évangélistes. On verra ça en détail, mais on voit ici qu'il n'y a seulement que quatre arcades dans la partie supérieure qui sont ornées de mosaïques. Les statues des évangélistes se trouvent au sommet des pinacles, etc. La façade est aussi ornée par environ 300 colonnes réparties en deux rangées superposées. Elles forment une véritable forêt de couleurs et de styles différents. La décoration somptueuse par l'abondance des colonnes antiques de marbre, porphyre, jaspe, serpentine, albâtre, les innombrables sculptures de différentes époques et les mosaïques des portails laissent une impression d'immense richesse. Alors c'est assez facile de les dénombrer sur les bonnes photos, mais effectivement il y a plus de 300 colonnes sur deux niveaux superposés en bas, et il y en a aussi dans la partie supérieure. Et il y a aussi les côtés, il y en a partout. Pour les grands portails de la façade, la lecture chronologique des mosaïques se fait de la droite vers la gauche. Donc on va commencer à droite de la photo. Le premier portail correspond à la chapelle du cardinal Jean-Baptiste Azen, qui est derrière. On l'a vu, il s'agit du vol du corps de Saint-Marc à Alexandrie. Voilà. Le second portail est celui de San Clemente, c'est l'arrivée du corps de Saint Marc à Venise. Le troisième portail, le portail central, qui date du XIXe siècle, représente le Christ en gloire et le jugement dernier. Le quatrième, c'est le portail de San Pietro, qui représente un doge et le peuple accueillant le corps de Saint Marc à Venise. Ça, c'est un détail. Voilà, qu'on a vu tout à l'heure déjà. Et enfin, le cinquième portail qu'on a vu tout à l'heure, le portail de Sant'Alipio, l'arrivée du corps de Saint Marc et son inhumation dans la basilique Saint-Marc. Un coup d'œil maintenant sur les mosaïques de la partie supérieure. Les grandes mosaïques qui ornent la partie supérieure de la façade datent du XVIIe. La lecture chronologique se fait de gauche à droite. Donc, les deux premières de gauche représentent la déposition et la descente aux limbes. Et les deux dernières à droite représentent la résurrection du Christ et l'ascension, qui est à l'extrême droite. Au XVIe et au XVIIe siècle, de nombreuses mosaïques détériorées furent refaites en respectant les sujets originaux. Quelques-uns des cartons furent réalisés par divers artistes, parmi lesquels les plus célèbres sont le Titien, Véronèse, Jacopo Robusti di Il Tintoretto et son fils Domenico. Revenons au portail principal, surmontant l'arcade supérieure centrale. On découvre le grand lion ailé de Saint-Marc, la patte droite posée sur l'évangile ouvert. Au sommet se dresse la statue de Saint-Marc entourée d'anges. Et voici le lion avec toujours cette devise « Pax Tibi », etc. La façade sud qui est orientée du côté du Grand Canal. Nous verrons deux détails. La Porta da Mar, qui est ici, et la Vierge des Marins, qui se trouve là. Depuis le XIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, la Porta da Mar constitua l'entrée de prédilection des navigateurs et fut fermée pour accueillir la tombe du cardinal Giambattista Zen. Donc, avant, on entrait par là, mais ça a été modifié par la suite. La Vierge des Marins est une mosaïque de style byzantin du XIIIe siècle. C'est pour les navigateurs que fut placée au-dessus de la porte, au niveau de la terrasse, une image de la Vierge tournée vers la mer, témoignage de la prière des Vénitiens pour leurs compatriotes naviguant sur les contrées lointaines. Cette Vierge est flanquée de deux veilleuses brillantes au cœur de la nuit. C'étaient les premières lumières que les marins voyaient à leur retour. Dans les lanternes, on devine ici une lumière, mais il y en a une seconde ici. Avant de vous parler du groupe des tétrarques, je veux évoquer avec vous la révoltante et scandaleuse quatrième croisade de 1204. Décidée dès 1198 par le pape Innocent III, la quatrième croisade fut prêchée par Foulque de Neuilly, entre autres. La République de Venise, qui était la principale puissance maritime de Méditerranée, accepta d'affréter le nombre suffisant de navires pour transporter 30 000 croisés, un nombre considérable. Au cours de l'été 1202, l'armée croisée se réunit à Venise sur le Lido, mais elle était beaucoup moins nombreuse que prévu. Les Vénitiens étaient dirigés par le vieux doge de Venise, Enrico Dandolo, presque aveugle. Ce dernier refusa que les navires quittent le port avant que les croisés aient versé la totalité de l'argent prévu. Mais les croisés ne purent rassembler cette somme. Dandolo accepta de reporter la dette à condition que la puissante armée participe au siège du port de Zara, ancienne possession vénitienne en Dalmatie, la Croatie actuelle, alors occupée par le roi de Hongrie. Dandolo se croisa. On le voit ici. C'est une gravure de Gustave Doré. On voit Dandolo brandissant les bras devant la foule. Il se croisa durant une cérémonie dans la basilique Saint-Marc, puis il dirigea la flotte des croisés contre la ville portuaire contrôlée par les Hongrois. Ils y arrivèrent le 11 novembre 1202. Le roi hongrois Emeric était cependant lui-même catholique et avait aussi accepté de rejoindre la croisade. Les croisés assiégèrent quand même la ville et la prirent. Les Vénitiens et les croisés furent immédiatement excommuniés pour cet acte par le pape. C'était le premier détournement de la croisade. des ambassadeurs du roi d'Allemagne se présentent à Zara et transmettent une proposition du prince Alexis Ange. Ce dernier est le fils de l'ancien empereur byzantin Isaac II Ange, qui a été dépossédé de son trône en 1195 par son propre frère Alexis III Ange. L'ancien empereur était gardé prisonnier dans les geôles de Constantinople, où il avait été aveuglé. Les ambassadeurs suggèrent aux croisés de restaurer Alexis Ange dans ses droits. Ce dernier promet en échange 200 000 marques d'argent et un appui militaire pour marcher sur l'Égypte, car la croisade était en principe dirigée contre l'Égypte pour obliger le sultan à évacuer la Terre Sainte. Innocent III soutient cette initiative car il espère tirer parti des divisions byzantines pour rétablir l'unité de l'Église, c'est-à-dire mettre son emprise sur l'Église orthodoxe. Les croisés n'étaient pas tous enclins à se battre contre d'autres chrétiens, mais furent convaincus par le clergé catholique que les byzantins orthodoxes étaient aussi mauvais que les musulmans, pour des raisons théologiques. Les croisés et les Vénitiens décidèrent de placer Alexis IV Ange sur le trône manu militari et en juillet 1203, après quelques difficultés, ils réussirent à pénétrer dans Constantinople, installèrent Alexis IV sur le trône et son père Isaac II fut libéré et désigné comme co-empereur. Mais le trésor impérial était vide. Alexis III l'avait emporté dans sa fuite, ce qui força Alexis IV à revenir sur les termes du marché qu'il avait proposé aux croisés. Les citoyens de Byzance supportaient très mal le comportement des latins dans leur ville. Des bagarres ne cessaient d'éclater. À la suite de ces incidents, une conjuration contre Alexis IV se noua et le chef de l'opposition, Alexis Doukas, cousin de l'empereur, prit le pouvoir et se fit couronner empereur Alexis V. Il étrangla de ses propres mains le jeune Alexis IV, puis fit rouer de coups son corps avec une massue pour faire croire à une chute et à une mort accidentelle. Alexis V montra une très grande autorité, il renforça les murs et les tours de Constantinople, mais refusa d'acquitter les sommes d'argent promises par ses prédécesseurs. Les croisés et les Vénitiens devinrent enragés. En dépit de leurs serments et de la menace d'excommunication du pape, ils attaquèrent de nouveau la ville en avril 1204, et réussirent à pénétrer dans la capitale de l'Empire byzantin. Voyez ici un tableau de Jacopo Robusti, d'Il Tintoretto, qui représente la prise de Constantinople par les croisés. Vous voyez, c'est d'une extrême violence, la ville est déjà en partie en flammes. Le 13 avril 1204, les flammes s'élèvent déjà sur une bonne moitié de la ville sainte. Andrea Dandolo et les princes de la quatrième croisade, Baudouin, comte de Flandre, Boniface, marquis de Montferrat, Louis, comte de Blois, viennent de prendre la possession du palais et accordent 3 jours aux soldats pour piller Constantinople. On a ici un tableau de Delacroix représentant l'entrée des croisés à Constantinople. C'est un tableau qui date de 1840, qui est au musée du Louvre, qui est très célèbre. Au premier plan, c'est Baudouin, hein, ici, et le doge est à l'arrière-plan avec cette coiffure ornée d'hermine. Une ivresse d'or et de sang leur monte alors à la tête. Au son des trompettes, derrière une litanie de prêtres en ornement, les croisés se ruent dans la ville sainte des Grecs, tuent tout sur leur passage, massacrent les nouveau-nés, outragent des femmes, rouent de coups de vieux moines. Aucune église n'est épargnée, ils brisent les icônes. Si fier de sa culture, Byzance voit s'envoler en fumée des tonnes de manuscrits de l'Antiquité, car les croisés dépouillent aussi les bibliothèques, les palais, les hôtels particuliers, les places et édifices publics de trésors que 9 siècles d'histoire ont entassés. Dans sa conquête de Constantinople, le chroniqueur Robert de Clary assure qu'avant l'assaut, les croisés avaient juré sur les saints évangiles qu'ils ne porteraient pas la main sur les moines, les prêtres et clercs grecs, et n'endommagerait ni les églises ni les monastères. Mais comment résister à la tentation devant les trônes et les autels, les reliques et les bijoux, les vaisselles d'or et d'argent, les étoffes brodées? Les clercs de l'expédition ne sont pas les derniers à participer à la curée. Les collections de reliques rassemblées par les empereurs byzantins sont les plus belles de l'histoire de la chrétienté. Martin de Péris, abbé cistercien, et Pierre de Capoue, cardinal et légat du pape, puissent à pleine main dans des chefs-d'œuvre. De nombreuses œuvres d'art grecques et romaines, anciennes et médiévales, furent détruites ou volées. Dandolo et les Vénitiens ont fait preuve d'une cupidité effrayante. Après la chute de l'Empire byzantin, l'Empire latin est fondé, et Baudouin de Flandre se voit couronné empereur sous le titre de Baudouin Ier de Constantinople dans la cathédrale Sainte-Sophie le 16 mai 1204. L'ancien empire byzantin est morcelé et partagé entre les Vénitiens et les croisés. Innocent III accepte d'abord le fait accompli, se satisfaisant des promesses d'union des églises, mais informé des excès des croisés, il parle de détournement de la croisade dont il accuse les Vénitiens. L'idée de détournement de cette croisade est donc contemporaine des événements. Selon Stephen Runciman, auteur moderne d'une magistrale Histoire des croisades, le sac de Constantinople est l'un des événements les plus révoltants de l'histoire. Certains historiens modernes considèrent que sans le détournement de la quatrième croisade sur Constantinople, les Turcs n'auraient probablement jamais pu débarquer en Europe. En affaiblissant Constantinople, le pillage de la quatrième croisade favorisera la chute définitive de l'Empire byzantin en 1453. Vous avez un tableau de Benjamin Constant qui représente l'entrée du sultan Mehmed II à Constantinople le 29 mai 1453. C'est un tableau qui se trouve au musée des Augustins à Toulouse et qui date de 1876. Vous voyez la parenté entre les deux tableaux. Il y a une évidente concurrence entre les deux. Ici, un tableau de Delacroix qui représente l'entrée des croisés, ici, du sultan à Constantinople. Ce sont deux illustrations de deux événements dramatiques de la ville. Les tétrarques et les chevaux de Saint-Marc qui ornent la basilique sont deux des nombreux témoignages du pillage de Constantinople. À un angle de la cathédrale se trouve donc le groupe des tétrarques. Il date du début du IVe siècle. Cet ensemble statuaire est en porphyre rouge d'Égypte. Cette première tétrarchie était composée de deux Augustes et de deux Césars. En 284, l'empereur Dioclétien Auguste délègue une partie de son pouvoir à un autre Auguste, Maximien, pour diriger différentes parties de l'Empire. Puis les deux empereurs décident de déléguer à un deuxième niveau. Dioclétien prend Galère pour adjoint avec le titre de César et Maximien s'adjoint Constance Chlore avec le titre de César. À partir de 293, ce sont donc quatre empereurs qui règnent sur l'Empire romain. À l'origine, la sculpture des tétrarques formait un seul bloc. Les quatre personnages sont vêtus d'une cuirasse richement ornée et recouverts d'une chlamyde, ample manteau agrafé sur l'épaule droite. Ce n'est qu'en 1844 que les statues ont été correctement identifiées. Les chevaux de Saint-Marc. Alors en mai 2013, Pierre Thélen a évoqué le sort des chevaux dans sa conférence consacrée à la période napoléonienne de Venise, mais je vais développer un peu leur histoire passionnante. Transportés à Venise en 1204 à la suite du sac de Constantinople, les chevaux faisaient partie de l'énorme butin. Les chevaux exposés actuellement à l'extérieur sont des copies. Dans les années 1980, les chevaux originaux ont été placés dans le musée de la basilique et remplacés par des répliques pour les préserver de la pollution atmosphérique. Les répliques ont dû être nettoyées et restaurées en 2006. Donc là, ce sont les copies et là, les originaux. Les chevaux de Saint-Marc sont les éléments restants du seul quadrige de bronze de l'Antiquité qui soit parvenu jusqu'à nous. En effet, à l'origine, les chevaux étaient certainement attelés à un char qui a entièrement disparu. Ces chevaux de bronze sont en réalité de cuivre doré quasiment pur à 98%, alors que le bronze antique est habituellement constitué de 85% de cuivre et 10% d'étain, une faible quantité de plomb et autres impuretés. Chaque cheval est différent, mais les têtes ont été coulées à part et n'ont probablement pas été remises à leur juste place après le déménagement de Constantinople. Chacun des chevaux pèse environ 875 kg. Voici un détail des chevaux qui ont bien conservé leur dorure d'origine. Leur origine exacte n'est pas certaine et l'auteur n'est pas connu. Au XVIIIe siècle, Leur perfection esthétique avait conduit à leur attribuer une origine grecque. Certains avaient avancé le nom de Lysippe. Mais d'après la plupart des historiens actuels, ils ne sont pas antérieurs au IIe siècle. Ils datent donc de l'époque impériale. Ces chevaux antiques appartenaient à un magnifique quadrige qui proviendrait de l'île de Kio. Ils auraient été apportés à Rome par Auguste et placés successivement sur les arcs de Néron et de Trajan. Puis Constantin les aurait fait transporter à Constantinople. Le quadrige était placé sur une tour de l'hippodrome au-dessus des positions de départ. En voici une reconstitution archéologique de la ville de Constantinople avec le grand hippodrome qui avait été agrandi par Constantin, d'ailleurs, qui avait une dimension considérable. On voit ici un détail, et voilà les positions de départ avec la tour centrale au sommet de laquelle se trouvait le quadrige. Voyons, c'est une reconstitution, hein, c'est une image de synthèse avec les positions de départ des chars et le quadrige de bronze qui se trouvait au sommet de la tour centrale. On devine comme ceci à l'arrière-plan, sans les minarets, évidemment. Dès leur arrivée à Venise, les chevaux trônent au centre de la façade de la basilique, au-dessus du portail principal, ce qui démontre l'importance de cette œuvre aux yeux des Vénitiens. En 1797, Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l'armée d'Italie du Directoire, s'empare de Venise durant la première campagne d'Italie. Par le traité de Campo Formio, il cède la plupart des possessions de l'ancienne République à l'Autriche, mais avant d'évacuer Venise, les Français procèdent à l'enlèvement des chevaux de Saint-Marc pour les faire transporter à Paris. Les lourds chevaux sont descendus du portique de la basilique en présence de la foule des Vénitiens et de l'armée d'Italie. La gravure de Jean Duplessis Berthaud que vous avez sous les yeux ne montre pas les vives réactions d'opposition que l'enlèvement du 13 décembre 1797 suscita parmi les Vénitiens. Le transport vers Paris se fit par voie maritime et fluviale. Les chevaux sont envoyés par mer à Toulon, où ils arrivent le 6 avril 1798. Chargés sur deux bateaux à Arles, les chevaux remontent vers Paris par le Rhône, la Saône, le canal du Centre, la Loire, les canaux de Briare et du Loing, puis la Seine, pour rejoindre les autres œuvres envoyées d'Italie. Le convoi atteint Paris le 17 juillet 1798. Les objets d'art et de science en provenance d'Italie sont officiellement présentés dans un grand cortège lors de la fête de la liberté de l'an 6, qui correspond à Thermidor au 27 juillet, hein, le 9 et 10 Thermidor de l'an 6. De toutes les grandes fêtes de la Révolution, l'entrée triomphale de ce chef-d'œuvre est sans conteste la plus originale. Des inscriptions précèdent les chevaux dans le cortège. Celles-ci, par exemple, la Grèce les céda, Rome les a perdus, leur sort changea deux fois, il ne changera plus. Et un autre slogan, ils sont enfin, et on parle des chevaux, sur une terre libre. Vous avez sous les yeux le programme des fêtes de la liberté, l'entrée triomphale des objets de science et d'art, et vous voyez les inscriptions que je vous ai données, les chevaux sont quasiment en tête du cortège, et sur le troisième char, on voit Apollon, Clio, etc. Enfin, tout avait été parfaitement organisé. Et le programme a été respecté puisqu'il a donné lieu à un grand vase qu'on appelle un vase étrusque à rouleaux d'Antoine Béranger, qui est décoré donc de ce cortège où les grands chevaux dorés dotés de crinière noire tirent symbolique le char portant le Laocoon. Ce grand vase mesure 1,20 m de haut, il est en porcelaine. On peut le voir, il a été réalisé en 1813, on peut le voir au Musée national de la céramique Sèvres. On devine les chevaux. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'artiste a représenté les chevaux, mais les chevaux en action. Il s'agit des chevaux de Saint-Marc. Hein. Mais il les a représentés tirant le char du Laocoon, que l'on voit ici, qui n'avait pas encore trouvé son bras. Et voilà. Donc, il les a mis en action. Mais ce sont les chevaux de Saint-Marc qui sont évoqués de cette manière. Les chevaux restent à Paris pendant 17 ans, de 1798 à 1815. D'abord entreposés aux Invalides, ils sont ensuite disposés sur quatre piliers de la grille qui entourent la cour des Tuileries. En 1808, ils viennent couronner l'arc de triomphe du carrousel édifié à la gloire des armées napoléoniennes. C'est une peinture de Bélanger, intitulée « Un jour de revue sous l'Empire », qui date de 1810. Cette peinture montre l'arc de triomphe tel qu'il se présentait à l'entrée de la cour du palais des Tuileries. Le quadrige attaché à un char domine de sa splendeur le cadre grandiose des revues militaires de l'Empire. Bonaparte savait que les chevaux de Venise apparaîtraient comme un glorieux trophée de la campagne d'Italie, mais leur installation à Paris manifeste la volonté de rassembler au cœur de la grande nation les réalisations exemplaires du génie humain. Exposer les objets exceptionnels comme ces chevaux antiques sert à l'instruction publique. Prendre les grands chefs-d'œuvre des régions récemment conquises pour les regrouper au musée du Louvre ou pour décorer des monuments publics s'inscrit dans la même perspective. L'essentiel est de montrer des objets propres à former le goût, à échauffer le génie et à susciter des artistes. En 1815, après la bataille de Waterloo et la chute de Napoléon, et suite au congrès de Vienne, les chevaux sont rendus à Venise par les Autrichiens. Ils regagnent la façade de la basilique Saint-Marc. Le tableau de Vincenzo Cinone que vous avez sous les yeux montre le retour des chevaux de Saint-Marc en 1815. Pour remplacer les chevaux sur l'arc de triomphe du carrousel, Charles X confie au sculpteur François-Joseph Bozio la réalisation d'un nouveau quadrige. Les chevaux s'inspirent de ceux de Venise, évidemment. Voici une vue sur les cinq dômes. Alors je ferai une distinction classique entre les coupoles et les dômes. Les coupoles, c'est à l'intérieur et les dômes, c'est à l'extérieur. Donc voici une vue sur les cinq dômes. Avec l'entrée est ici, le narthex est devant évidemment, avec la coupole de la Pentecôte, la coupole de l'Ascension, la coupole du Cœur. Au nord, c'est la coupole Saint-Jean et au sud, la coupole Saint-Léonard. On retrouvera ces noms à l'intérieur. Les coupes permettent de voir la différence de hauteur entre les coupoles intérieures couvertes de mosaïques et les dômes qui les surmontent. Les charpentes sont très importantes. Et avec une maquette encore plus. Il s'agit du chœur, ici avec la coupole du chœur. Là, c'est la coupole de l'Ascension qui est surmontée d'un dôme important. On reconnaît le plan croix grecque. Le narthex se développe sur les trois côtés du bras ouest. Alors cette fois-ci, c'est orienté. Le nord est en haut, l'ouest est l'est et le sud en bas. La partie sud est occupée par le baptistère et la chapelle du cardinal Zen. On a donc le narthex qui est ici, le baptistère est ici, la chapelle du cardinal Zen. On dit Zen ou Zeno, mais même dans les textes latins, italiens, j'ai trouvé le nom de Zen. Alors, vous dites comme vous voulez, le plus simple pour moi c'est Zen, parce que j'ai trouvé encore une fois, même dans les textes italiens. Dans le narthex ouest, nous verrons plusieurs mosaïques. La coupole nord consacrée à Abraham, celle-ci. On verra l'arc doubleau qui est ici consacré à l'arc de Noé, et dans la coupole sud, c'est la coupole de la création. Puis nous pénétrerons dans la basilique avec la coupole de la Pentecôte, à la croisée des quatre bras, la coupole de l'Ascension, la coupole du cœur, la coupole Saint-Jean, on n'en verra pas, je n'ai pas trouvé de bonne photo, et la coupole Saint-Léonard. Puis nous terminerons par le baptistère et la chapelle Zen, du cardinal Zen. Entrons dans le narthex. Il est décoré de mosaïques du début du XIIIe siècle qui représentent des scènes de l'Ancien Testament depuis la création du monde jusqu'à l'Exode. La place Saint-Marc est à droite de la photo, l'entrée de la basilique à gauche. Tout au fond se trouve la coupole de la création. On est donc orienté vers le sud. Au-dessus de nous, nous voyons la coupole nord qui raconte des épisodes ici de la vie d'Abraham. Sur l'arc doubleau, qui est tout en haut de la photo, qui précède la coupole sud, nous découvrons une série de scènes illustrant l'épisode du déluge et de l'arche de Noé. Donc voici. Au fond, il s'agit de la coupole de la création. Mais on va d'abord rester un instant sur l'arc doubleau. Avec donc des épisodes du déluge. On voit Noé empoignant un couple de lions et le jetant à l'intérieur de l'arche. Il y a du travail, hein. Et plusieurs épisodes du déluge, avec en bas l'épisode final où les eaux étant redescendues, Noé offre un sacrifice à son Dieu. La célèbre coupole de la création est composée de trois cercles concentriques. Le premier cercle central est divisé en cinq parties. Alors, la création du ciel et de la terre est en haut à droite, ici. Et on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La création des anges, l'esprit du Seigneur porté par les eaux, c'est un petit peu compliqué. La séparation de la lumière et des ténèbres, la séparation du firmament et des eaux, ici, voilà. On a tourné dans ce sens-là. Et on va encore, dans le deuxième cercle, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le second cercle est divisé en 8 compartiments qui détaillent les sujets créés. Alors il y a la création du soleil et de la lune, ici. La création des poissons et des oiseaux, ici. La création des âmes, voilà. La création des quadrupèdes, ici. La création de l'homme, voilà. La bénédiction du septième jour. L'infusion de l'âme, ici, et Dieu plaça l'homme dans l'Éden. Et le troisième cercle, j'ai fait un retour en arrière, est divisé en 12 compartiments qui racontent l'histoire d'Adam et Ève au paradis. Quand nous pénétrons dans la basilique proprement dite, nous sommes éblouis par la voûte d'or. La partie supérieure, voûte et coupole, correspond au monde céleste. La partie inférieure, sol et mur, correspond au monde terrestre. Et cette dernière partie est ornée de marbre. Les très nombreuses colonnes antiques ont été prises lors de conquêtes, en particulier celle de Constantinople. La plupart ne remplissent aucune fonction structurelle, mais servent de décoration. Les mosaïques sur fond d'or ont valu à l'Église le surnom de basilique d'or. Les premiers travaux ont eu lieu dans les années 1071-1084 sous l'impulsion du doge Domenico Selvo. Cependant, la majorité des mosaïques ont été réalisées au cours du XIIIe siècle. Les mosaïques couvrent une superficie totale de 4240 m², réalisant ainsi l'un des plus grands ensembles de mosaïques du monde. Un mot sur la technique des mosaïques, les petits morceaux de mosaïques, qu'on appelle des tesselles, sont découpés dans des dalles de verre colorées au lieu de pierres colorées comme dans la technique antique. Les tesselles d'or et d'argent sont constituées de pattes de verre transparents en serrant des feuilles de métaux précieux. Souvent, ils ont reçu un angle légèrement différent afin de varier les jeux de lumière. Les artisans traçaient une esquisse en couleur de la scène prévue sur le plâtre humide, puis les tesselles étaient posées une à une et pressées aux deux tiers de leur hauteur dans le mortier. Ce n'était pas seulement du plâtre, c'était souvent plusieurs composants. La première coupole que l'on voit en haut, que nous découvrons, illustre la Pentecôte. Elle date de 1100 ou 150. Vous voyez, ensuite, il y aura la coupole de l'Ascension et la coupole du cœur avec le Christ en majesté qui est au-dessus du maître-autel. Donc, la coupole de la Pentecôte. On reconnaît les 12 apôtres dont la tête est surmontée d'une petite flamme. Cette mosaïque illustre la mission confiée aux apôtres par le Saint-Esprit qui est au centre. Entre les ouvertures des fenêtres, on aperçoit les peuples des nations évangélisées représentés dans leurs costumes typiques. Hein, les petits bonshommes entre les fenêtres là. Cette photo est là juste pour le plaisir des yeux, mais on reconnaît ici la coupole de la Pentecôte qu'on vient de voir et on passe à la coupole de l'Ascension à la croisée des quatre bras. Cette coupole date de 1175-1200. Au centre du cercle, le Christ ressuscité bénissant. Autour de Jésus, on voit quatre anges qui soutiennent la voûte céleste. Et les quatre trompes de la coupole montrent les quatre évangélistes. Là, on voit bien ici les quatre anges qui soutiennent la voûte céleste, et puis les quatre évangélistes qui sont aux quatre coins de la photo. En bas de la photo, ici, la Vierge, encadrée de deux anges, est insérée dans une frise circulaire où sont représentés les 12 apôtres. Les figures des vertus se développent à la périphérie du disque, entre les fenêtres. Quatre lettres grecques sont réparties de chaque côté de la tête de Jésus. Ah, je l'ai dit en français, IC et XC, mais c'est l'abréviation du nom de Jésus-Christ en grec, Iesos Christos. Le sigma final a été transformé en C. Alors, à gauche, IC, c'est Iesos, et le sigma final a été transformé en C, et à droite, Christos, le sigma final est transformé en C. Voilà. Il s'agit donc de la première et de la dernière lettre de chaque mot. Le tilde au-dessus indique le caractère divin du personnage. Le tilde, c'est ce petit trait ondulé, là, comme en espagnol, hein, mais voilà. La coupole du cœur représente Marie entourée de personnages et prophètes de l'Ancien Testament. Alors, il y a Salomon, David, Jonas, Malachie, etc. La coupole Saint-Léonard est au sud. C'est une des plus anciennes, elle date de 1100 au 120, elle est plus simple. Nous approchons de l'iconostase gothique qui date de 1394. C'est une œuvre qui porte la signature des frères vénitiens Pier Paolo et Giacobello dalle Masegne. L'iconostase est restée complètement dans son état original. Elle est ornée de 14 belles statues réparties de part et d'autre du crucifix central. Il y a les 12 apôtres, la Vierge et Saint Marc. Les sculptures sont en marbre blanc, mais elles présentent une surface sombre de couleur marron qui provient de la fumée des cierges qui étaient placés à côté. Donc ici, c'est Marie et Marc ici à droite. Une vue sur le maître-autel avec, dans le cul de four, un Christ en majesté qui est une mosaïque qui a été restaurée au XVIe siècle. Un retable exceptionnel se dresse sur le maître-autel, la pièce d'ornementation la plus célèbre est la Pala d'Oro. Somptueux panneau d'orfèvrerie situé derrière le maître-autel, elle mesure à peu près 3,45 m de longueur sur 1,40 m de hauteur. Elle est formée de feuilles d'or et d'argent doré, elle est richement décorée de 80 émaux, représentant chacun une petite scène ou un personnage et de centaines de pierres précieuses. Alors là, c'est pour l'éblouissement des yeux, mais pour étudier un petit peu cette Pala d'Oro, on va utiliser une autre illustration. Attardons-nous un instant sur la composition de la Pala. La première Pala a été commandée en 976 par le doge Pietro Orseolo, celui qui a fait le coup d'État, toujours lui, et réalisée par des artistes byzantins. Les médaillons, une soixantaine de petits bustes de saints, proviennent probablement de cette première Pala. Il s'agit des petits médaillons orange, là. En réalité, ce sont des petits bustes, et ce sont tous ces petits médaillons proviennent probablement de cette première Pala, qui a été retransformée, évidemment. En 105, la Pala est enrichie à la demande du doge Faliero. Le panneau est divisé dans sa hauteur en deux parties de taille inégale. La partie inférieure est la plus grande. En son centre figure le Christ bénissant, entouré des quatre évangélistes. Vous voyez, il y a deux grands rectangles, un grand rectangle inférieur et supérieur, et ici le Christ avec les quatre évangélistes dans les quatre médaillons. En bas, ici, on voit la Vierge au centre, encadrée par le doge Faliero et l'impératrice Irène. En rangée horizontale, sur les trois rangées horizontales, sont figurés les apôtres, les prophètes et les anges. Sur le pourtour de la partie inférieure, les émaux carrés datent de 1102. Ils représentent des scènes de la Bible. Et les émaux carrés, hein. Horizontalement, il y a 11 épisodes de la vie de Jésus. et verticalement 10 épisodes de la légende de Saint-Marc, 5 de chaque côté. Il y a quelques émaux pour compléter. Voilà. En 1209, le doge Pietro Ziani fait ajouter les 7 grands émaux du registre supérieur. Il y a l'image de l'archange Michel au centre. Tout le tiers supérieur provient probablement du pillage de Constantinople. Je vous détaillerai les scènes de la vie du Christ qui symbolisent les fêtes principales de l'Église. Il y a les rameaux, Jésus-Christ au limbe, le crucifiement qui devrait se trouver avant. On ne sait pas pourquoi, il n'est pas tout à fait à sa place, mais je ne connais pas la raison de son emplacement actuel. L'archange Michel, l'Ascension, la Pentecôte et l'Assomption. En 1343, le doge Andrea Dandolo, 54e doge, c'est un descendant de celui qui a pillé Constantinople, ordonna que les deux parties soient réunies dans un nouveau cadre gothique orné de 1927 pierres précieuses, 526 perles, 330 grenades, 320 émeraudes, 255 saphirs, 180 améthystes, 75 rubis, etc. Et d'autres pierres furent ajoutées lors de la restauration du 19e siècle, plus de 2000 pierres en tout. Donc voici une vue plus claire de cette Paladoro. Et on va rester dans la partie supérieure avec les différentes scènes représentées. Je vous ai parlé des rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus-Christ au limbe. Le crucifixion qui normalement on devrait se trouver avant. L'archange Michel au centre. L'Ascension. Je n'ai pas trouvé de bonne photo de la Pentecôte, alors on passe directement à l'Assomption ou Dormition de la Vierge. Et l'élément central avec le Christ bénissant entouré des 4 évangélistes et avec Saint Marc ici. Vous voyez la quantité de pierres précieuses. Il y en a partout. Nous allons grimper dans les tribunes pour admirer de plus près quelques mosaïques. Les tribunes étaient destinées, je crois, aux femmes pour assister aux offices, aux personnalités de haut rang et à la famille du doge. Se promener dans ces galeries aériennes est un régal, parce qu'on passe vraiment au pied, enfin à la hauteur des mosaïques. Quelques mosaïques, ici ce sont les tentations de Jésus, Jésus au jardin des Oliviers, et puis une cérémonie religieuse que je n'ai pas identifiée, qui se déroule dans la basilique Saint-Marc, que l'on reconnaît à ses 5 dômes. Voilà, encore une fois. Et vous voyez le duc qui est penché ici. Du côté sud du narthex se trouve le baptistère, orné de mosaïques anciennes de différentes époques, entre le 11e et le 14e siècle. Qui illustre la vie de Jean-Baptiste et l'enfance de Jésus. Les fonds baptismaux ont été dessinés par Sansovino en 1545. Le couvercle en bronze est divisé en plusieurs compartiments triangulaires ornés d'un bas-relief ayant trait à la vie de Saint Jean-Baptiste. Ils ont été réalisés par divers artistes, certains étant des élèves de Sansovino. Au sommet du couvercle se dresse la statue de Jean-Baptiste en bronze. Et deux tombeaux de doges sont aussi placés dans cette chapelle. On en voit un à droite. La chapelle Zen contient le tombeau du cardinal Jean-Baptiste Zen ou Zeno, neveu du pape Paul II. Il a laissé un legs très important à condition d'avoir son tombeau à Saint-Marc. Il est mort empoisonné en 1501. Certains souhaitaient peut-être profiter plus rapidement du legs. Le monument a été achevé en 1515. Il a un beau tombeau. Les mosaïques de la voûte, toujours dans la chapelle, illustrent des épisodes de la vie de Saint-Marc. Alors, transcrire les inscriptions épigraphiques nécessite des connaissances très spécifiques. Heureusement, Geneviève Coste m'a communiqué à l'adresse du site où j'ai trouvé les informations que je cherchais. En effet, toutes les inscriptions ont été transcrites et traduites par Pierre Saccardo en 1896. Le déchiffrement de ces textes est extrêmement complexe. Les mots sont abrégés, des lettres sont superposées, les événements relatés sont extrêmement précis et difficiles à identifier. Tout cela est contracté pour gagner de la place. Enfin, c'est extrêmement compliqué. En plus, je pense que le latin de cette époque n'est pas du latin contemporain, entre autres difficultés. Alors, dans la rangée inférieure, je vous donne les traductions. L'ange annonce à Saint-Marc de la gauche vers la droite. L'ange annonce à Saint-Marc, se rendant d'Aquilée à Rome, la future construction de sa basilique. Puis, Saint-Pierre propose Saint-Hermagoras au patriarcat d'Aquilée. Saint-Marc arrive de Rome en Égypte et il chasse les démons. À droite. Dans la rangée supérieure, Saint-Marc écrit l'Évangile. Saint-Pierre approuve l'Évangile de Saint-Marc. Et Saint-Marc baptise les Aquiléens. Saint-Marc était patriarche ou évêque d'Aquilée. Hein, voilà. À titre d'exemple, je vais vous montrer comment il faut déchiffrer le texte. Il s'agit du deuxième qui est ici. Alors le texte latin, excusez mon accent, je n'en ai pas. Beatus Petrus confert patriarchatum aquilensem beato Hermacore. Alors le Beatus est ici, le mot est abrégé. Petrus, on le devine, les lettres sont superposées, le T et le R sont superposés. Confert, le N disparaît, il y a un tilde dessus. Et dessous, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer à la ligne inférieure, hein, parce que la séparation n'est pas très nette entre chaque épisode. Patriarchatum, alors c'est abrégé ici. Patriarchatum, vous voyez les lettres superposées, là encore. Aquiensem, alors là, c'est complètement abrégé. C'est un agglomérat de lettres. Et Beato, qui est plutôt Sanctus, là, hein, Hermacore, qui dégouline le long du manteau du personnage. Alors, il faut vraiment avoir une connaissance du latin ancien, une connaissance des textes, etc. C'est très très compliqué. C'est un plan des marbres au sol de la basilique. Le sol est couvert d'un tapis de marbre de 2099 mètres carrés, décoré essentiellement d'éléments géométriques. Qu'ils revêtent les sols ou le mobilier liturgique, les marbres sont pour la plupart d'entre eux des matériaux de remploi provenant d'édifices de Constantinople. La pierre la plus précieuse était le porphyre rouge, lié à la symbolique impériale en raison de sa couleur, mais il y avait aussi les marbres verts de Thessalie ou d'autres provenances. Alors c'est d'une extrême variété au niveau des motifs décoratifs, c'est très très beau, mais tout ça est le résultat d'un pillage. Avant de quitter la basilique, une vue de la crypte. Nous allons maintenant parler du campanile. Ce tableau de Canaletto date de 1730. La construction du campanile commence en 888. En 1080, il avait atteint le tiers de sa hauteur quand le sol céda sous son poids. Le doge Domenico Selvo ordonna sa démolition pour le reconstruire quelques toises plus loin à l'emplacement actuel. La construction était terminée au XIIe siècle. Gravement endommagé par un incendie en 1489 qui détruisit la flèche en bois, le campanile a pris sa forme définitive au XVIe siècle grâce aux restaurations faites à la suite de dommages supplémentaires causés par le tremblement de terre de mars 1511. Les travaux ont été achevés le 6 juillet 1513 avec le placement de la statue en bois doré de l'archange Gabriel. Ce campanile a une forme simple, une tour en brique surmontée d'un logement pour 5 cloches. Autrefois, elle rythmait les manifestations de la vie publique, chacune avait une fonction particulière. Galilée a utilisé le campanile pour ses observations. Il fut invité à présenter sa lunette astronomique. Le 21 août 1609, au sommet du campanile, il en fit la démonstration devant le doge et les membres du Sénat. Grâce à cette démonstration, Galilée fut nommé professeur à l'université de Padoue. Au début du XVIe siècle, la partie inférieure du campanile en pierre brute n'était pas en harmonie avec la magnificence du reste de la place Saint-Marc. Jacopo Sansovino fut chargé de la décoration, De 1537 à 1549, il construisit la Loggetta, ce chef-d'œuvre qu'on ne se lasse pas d'admirer. Un admirateur a écrit « On ne peut imaginer quelque chose d'aussi gracieux, d'aussi délicat, d'aussi harmonieux que cette sorte de petit palais en miniature que l'on nomme la Loggia. » C'est un tableau de Canaletto, je crois avoir oublié de vous le dire. D'abord, la Loggia fut destinée à servir de salle de réunion aux nobles vénitiens jusqu'en 1610. Mais ensuite, les procurateurs de Saint-Marc l'occupèrent. C'est de là qu'ils commandaient la garde pendant les séances du Grand Conseil qui se tenaient dans le palais des Doges. C'est ce que nous voyons sur la gravure que vous avez sous les yeux. Nous reparlerons de la Loggetta. Dans les siècles suivants, de nombreuses autres interventions ont été faites sur le campanile pour réparer les dégâts causés par les incendies. Le plus gros travail a été fait après un incendie le 13 avril 1745 qui a causé des fissures dans la maçonnerie et tué plusieurs personnes à la suite de chutes de pierre. Ce dessin que vous avez sous les yeux montre les travaux réalisés en 1745. C'est une gravure d'époque. Enfin, en 1776, le campanile fut équipé d'un paratonnerre. En 1820, la statue de l'archange en bois a été remplacée par une autre en métal de Luigi Zandomeneghi. Mais cet ange que vous avez sous les yeux de Domeneghi est une réplique. Le lundi 14 juillet 1902, à 10h05 du matin, dans un fracas épouvantable qui ébranla tout le quartier de San Marco, le campanile s'effondra sur lui-même en détruisant également la petite loge de San Sovino. Le campanile s'est effondré sans blesser personne. Enfin si, il y a eu un mort, le chat du gardien. La basilique Saint-Marc, juste à côté, ne subit aucun dommage. Le soir même, le conseil municipal approuvait le déblocage d'une somme de plus de 500 000 lire pour la reconstruction du campanile. Les gens étaient un peu choqués à l'époque. Vous voyez qu'en s'écroulant, le campanile avait aussi endommagé un peu la librairie, hein, mais enfin, ça a été reconstruit assez facilement. Oui, un détail. Au premier plan, vous avez un des putti de la Loggetta qui a glissé, qui s'est retrouvé vraiment au pied de la basilique. Inutile de dire que cet événement est ressenti comme un drame national en Italie. Toute l'Europe était en émoi et les dons affluèrent pour reconstruire ce monument. Alors pourquoi le campanile s'est-il écroulé ? Le campanile a été érigé du 9e au 11e siècle selon des méthodes rudimentaires. Les murs étaient faits de grandes briques de tailles variées obtenues en détruisant des monuments anciens. La surface apparente des murs était composée de briques posées de façon presque régulière, mais à l'intérieur, les briques étaient disposées de façon irrégulière et jointes par un mortier de qualité inférieure. Quand l'édifice s'effondra sur lui-même, il forma une montagne de petits fragments de laquelle s'éleva un énorme nuage de poussière. Le corps du campanile n'avait reçu jusqu'au XVIIIe siècle que des réparations partielles. Nous avons vu qu'en 1745, la foudre provoqua de graves fissures sur le côté est, au-dessus de la Loggetta, et cette partie dut être complètement restaurée. Cependant, le mur externe demeura en bon état jusqu'en 1898. Le campanile de San Marco aurait pu rester debout durant des siècles s'il n'y avait pas eu d'intervention humaine. Malheureusement, en 1898, le Bureau régional de conservation des monuments chargé de réparer la Loggetta décida de remplacer la couverture en plomb du toit du petit monument. Ces travaux, maladroitement exécutés, affaiblirent sérieusement la base du mur extérieur et le campanile s'écroula le 14 juillet 1902. La plus grande cloche fut récupérée presque intacte. Ils avaient déjà commencé à nettoyer un peu. On pourrait penser que c'était un désir dans l'âme des Vénitiens de vouloir reconstruire le clocher où il avait toujours été et comme il avait été. Mais en réalité, il y avait des opposants à cette idée. À peine 2 jours après l'effondrement, l'architecte autrichien Otto Wagner, le célèbre architecte membre de la sécession viennoise, souleva le problème de la reconstruction en partant d'une observation. La ville est une fête d'architecture variée. Et l'architecte se posait légitimement la question pour quel motif le style moderne ne devrait pas aussi être représenté sur la place de Venise. Otto Wagner ne s'était pas limité à la question du style. Il avait considéré le problème dans son ensemble. De toute façon, si la ville a besoin d'un campanile, disait-il, j'aimerais le voir dans un autre endroit parce que là où il était, il gâchait sans doute l'harmonie de style de la place. Il ne fut pas le seul à soutenir cette thèse. Certains souhaitaient même que le campanile ne soit pas reconstruit du tout, car ils trouvaient la place plus harmonieuse sans cette tour. Vous avez une vue de la place une fois que tous les gravats ont été dégagés. Il y eut contre l'architecte autrichien un tollé général, car tout le monde à Venise s'attendait au fond à ce que la reconstruction se fasse dans le style ancien, sans se demander si ce faisant on n'allait pas fabriquer un faux. En réalité, il n'y eut pas de vrai débat. Le député Pompei Molmenti fit à la Chambre des députés un discours passionné pour défendre la volonté de reconstruction déjà exprimée par le conseil municipal. Le campanile se lèvera de nouveau, mais dans la même forme et au même endroit. Le nouveau campanile a été inauguré le 25 avril 1912, à l'occasion de la fête Saint-Marc. Vous voyez, la reconstruction que vous connaissez. Alors d'un côté, il y a Venise qui est symbolisée par la justice, et sur l'autre côté du clocher, il y a le lion de Saint-Marc. Parlons un peu de la Loggetta. En 1663, on ajouta devant la façade d'origine une terrasse avec balustrade illustrant la loggia de la Piazzetta. Les portes en bronze à l'entrée de la loggia ont été sculptées en 1734 par Antonio Gay. Ça, c'est une photo de Claude Viviani qui montre un bel effet de perspective sur la loggetta et la librairie derrière. Voici également une de ces photos représentant le portail de bronze. Il a été brisé lors de l'écroulement en plusieurs morceaux, mais la restauration était parfaitement réussie. C'est le portail d'origine. Et on retrouve le lion avec la devise habituelle. Quelques mots sur la loggetta réalisée par Jacopo Sansovino. La structure de la façade rappelle celle des arcs de triomphe romains. Elle est typique de la Renaissance, tant par sa composition architecturale que par son ornementation. Elle présente une harmonieuse combinaison de différents éléments décoratifs. Dans la partie inférieure, les trois arcades alternent avec quatre niches contenant quatre bronzes. Chaque niche est encadrée de deux élégantes colonnes. On retrouve le même rythme dans l'entablement supérieur. Trois grands bas-reliefs alternent avec quatre putti. Le tout est couronné d'une fine balustrade. La composition est extrêmement rigoureuse. Hein, les trois arcades, les quatre bronzes, encadrés chacun de deux colonnes, et correspondant à la construction inférieure ici, les trois bas-reliefs alternant avec quatre putti, et la balustrade qui termine la composition de l'ensemble, très légère et très fine, elle-même rythmée de manière très précise par rapport à la partie inférieure. Les bas-reliefs situés au-dessus sont l'œuvre de trois élèves et collaborateurs de Sansovino. Ce sont des allégories de l'île de Crète ou île de Candie à gauche, Venise sous la forme de la justice au centre et l'île de Chypre à droite. Les reliefs des putti sont d'Antonio Gay et datent de 1750. Dans la partie inférieure de la photo, on n'a repris que deux des éléments, c'est Candie et Venise, avec les putti ici, dont l'un des deux avait glissé au pied de la basilique sur la photo tout à l'heure. En 1545, Jacopo Sansovino plaça 4 statues de bronze. Ces 4 statues délivrent un véritable message politique. Elles symbolisent le bon gouvernement de Venise. Je les ai rassemblées ici. Et à gauche, j'ai repris l'Apollon qui est ici. Mais enfin, les 4 sculptures sont dans l'ordre et se trouvent ici avec... Donc, ces statues qui délivrent un véritable message politique. À gauche, c'est Minerve ou Pallas Athéna, déesse de la sagesse, qui incarne aussi la force militaire de la cité. Puis, Apollon, identifié comme le dieu du soleil ainsi que des arts et de la musique, qui évoque l'harmonie politique de la cité et son amour de la musique. Mercure représente l'éloquence persuasive, qui est l'un des talents des Vénitiens. Et enfin à droite, la paix qui est nécessaire au commerce. Dans ce programme, Jacopo Sansovino est novateur. L'artiste n'utilise plus les vertus religieuses comme le voulait la coutume pour évoquer une idée, mais des figures mythologiques de l'antiquité païenne, ce qui est une caractéristique de la Renaissance. Après un dernier regard sur le campanile qui se dresse fièrement dans un ciel d'azur, nous quittons Venise avec cette belle vue nocturne de la basilique en période d'Aqua Alta. Je vous remercie de votre attention.